mots des religions. On retrouve Haïm Korsia pour les mots de la Torah.
Haïm Korsia, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de la vengeance. Est-ce que c'est la même chose que la revanche ? Est-ce que les Juifs ont deux mots pour marquer cette nuance ?
En fait, il faut revenir au sens. Le mot, il ne décrit qu'une situation. Et vous avez fort justement fait remarquer que le français a la nuance entre vengeance et revanche. Le Talmud dit exactement la même chose, parce qu'il est marqué dans la Bible, dans le Lévitique, « Ne te venge pas ». Alors, les traductions disent en gros « Ne te venge pas ». En fait, il y a deux mots. C'est marqué « Ne te venge pas » et « N'est pas de revanche ». Donc, c'est bien deux réalités.
Donc, il y a bien deux réalités différentes.
Le Talmud dit la chose suivante. « Te venge pas », c'est quoi ? Paul va voir Jacques et lui dit « Prête-moi une pioche ». Jacques lui dit « Non, je ne te prête pas ma pioche ». Le lendemain, Jacques vient voir Paul en lui disant « Tiens, pourrais-tu me prêter ton marteau ?» Paul lui répond « Hier, tu ne m'as pas prêté ta pioche. Aujourd'hui, je ne te prête pas mon marteau. » Ça, c'est la vengeance. La revanche, dit-il, c'est la même chose, la même histoire. L'un va voir l'autre en lui disant « Prête-moi ta pioche ». Le lendemain, l'autre vient et lui dit « Prête-moi ton marteau ». Il lui dit « Bien qu'hier, tu ne m'aies pas prêté ta pioche, moi, je te prête mon marteau ». Et là, on a, si vous voulez, la description d'une situation où un homme qu'on pourrait croire vertueux parce qu'il arrive à dépasser l'humiliation ou le refus qu'on lui a opposé la veille, noircit son acte par la notion de revanche. Qu'est-ce que c'est la revanche ? C'est l'incapacité que les hommes ont, soit à faire deux choses, soit à oublier le mal qu'on leur a fait, soit à considérer que ce n'était pas du mal et c'était quelque chose qui ne dépendait pas de sa volonté. Par exemple, la pioche qu'il avait dans sa terrasse n'était pas à lui et il avait promis de la garder. Mais il ne pouvait pas la prêter.
Par exemple, oui.
Mais l'autre ne lui a peut-être même pas laissé le temps d'expliquer. Il a juste noté « tu ne m'as pas fait ça ». C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à comprendre, à se mettre à la place de l'autre. Et peut-être que la revanche, c'est ça. C'est se dire « maintenant je suis sous ta coupe, mais un jour viendra où moi ça sera inversé et je saurai m'en rappeler ». Et saurai m'en rappeler, ce n'est pas seulement « je te refuserai », mais c'est « je t'écraserai sous le remords ». Mais c'est pas mieux.
C'est pas mieux. Non. Alors, on dit aussi, je crois, dans la Torah, que Dieu est un Dieu vengeur. Comment faut-il comprendre cette expression, cet adjectif appliqué à Dieu ?
Je crois que vengeur, il faut le traduire d'abord. Et on devrait parler plutôt de Dieu qui se souvient. Et c'est vrai que le Talmud, le Maxime des Pères, disent le travail est immense, le temps est court, et le boutiquier veille, un carnet et un stylo, et il note. Le travail est immense, c'est ce qui nous attend tous. Le temps est court, notre vie est finie à un moment ou à un autre. Le boutiquier veille, c'est Dieu qui voit tout ce qu'on fait. Il note tout sur un livre, le livre de la vie. Et un jour, il nous demande de rendre des comptes. Et en ce sens, il est porteur d'une jalousie, c'est-à-dire, en réalité, d'une capacité à se rappeler la moindre des choses. Mais de la même façon qu'il se rappelle la moindre de nos actions moins bonnes, il se souvient aussi de la moindre de nos bonnes actions, du moindre de nos élans.
Espérons-le, en tout cas. Est-ce que justement, pour les Hébreux, par rapport aux autres dieux dans l'environnement dans lequel ils vivaient, est-ce qu'ils n'ont pas voulu donner une spécificité à leur dieu, à eux, en disant « c'est un dieu vengeur » ?
Alors, votre question, moi, je la trouve essentielle dans le cadre du dialogue interreligieux. Si vous voulez, quand vous avez plusieurs produits, vous devez les distinguer. Pour les religions, on s'est dit c'est la même chose, il faut donc les distinguer. Donc on a présenté le judaïsme comme un dieu vengeur et le christianisme comme un dieu d'amour.
Cela d'abord, mérite sans doute nuance.
Voilà, et d'abord c'est le même dieu. Donc c'est qu'il y a les mêmes prérogatives, puisqu'il y a tout par définition, sinon ça ne serait pas dieu. Je crois que d'abord, opposer vengeance et amour, c'est faux, parce que c'est le même sentiment finalement. L'amour, c'est le lien qu'on a avec quelqu'un. La vengeance, c'est une forme de jalousie. Alors, le véritable mot, c'est El Cana, un dieu jaloux.
Ah, c'est jaloux plutôt que vengeur.
Voilà. Et jaloux, ça vient du mot un dieu qui est attaché. Évidemment, on pourrait considérer, de ce point de vue-là, que Dieu nous aime tellement, les hommes, que lorsque nous nous détournons de lui, il se trouve dans la situation d'un mari en quelque sorte trompé. Et à ce moment-là, il a, si vous voulez, dans les maris trompés, ou les femmes trompées, ne soyons pas misogynes, dans les femmes ou les maris trompés, il y a deux options. Il y a l'option de celui qui dit, bon, elle fait comme elle veut. C'est pas le gage d'un grand homme, c'est pas forcément le gage d'un amour profond. C'est peut-être que peu lui importe le comportement de son conjoint.
Oui, il y a un peu de la différence tout de même là-dedans.
Et c'est pire
oui.
que tout. Alors que quelqu'un qui serait amoureux de son conjoint et se verrait trompé, il aurait peut-être une réaction violente, une réaction de passion. Mais c'est la seule garantie qu'il se passe quelque chose, ça le touche profondément. Donc la Bible nous parle d'un Dieu jaloux, Elkana. Et on voit que cette jalousie est construite sur l'amour que Dieu nous porte et auquel il attend que nous-mêmes nous portions le même amour. Donc, si vous voulez, ce Dieu, ce n'est pas à opposer à un Dieu de vengeance, donc de jalousie, et un Dieu d'amour. Il ne peut y avoir de Dieu jaloux que s'il y a Dieu d'amour. Dans les deux sens, l'amour que nous on porte à Dieu et l'amour que Dieu nous porte. Et je crois que finalement, la plus belle espérance qu'on pourra avoir, c'est que Dieu continue toujours à être jaloux de nous, c'est-à-dire qu'il continue à attendre et à espérer quelque chose de nous, parce qu'un monde triste et un monde dramatique serait un monde où Dieu n'attend plus rien de l'homme.
Oui, il s'en moquerait, il s'en détournerait, voilà. Ce que certains pensent. Mais tout de même, là, on parle de Dieu, mais il y a aussi l'homme. Est-ce que la formule « œil pour œil et dent pour dent », ce n'est pas une formule qu'il faudrait commenter quand on parle du mot « vengeance » ?
Oui, mais alors vous avez raison, mais si vous permettez, j'y reviendrai.
On fera une émission spéciale.
Non, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais vous racontez un passage de la Kabbale, si vous permettez, pour une fois. Je fais peu... référence à la Kabbale, surtout dans le public et dans les émissions, mais la Kabbale dit une chose magnifique. Elle dit « L'âme de Caïn s'est réincarnée dans Pinchas. » Qui est Pinchas ? C'est un personnage biblique dont on parle dans les Nombres, qui voit devant lui un chef d'Israël, Zimri ben Salou, forniquer avec une fille de Midian, la fille d'un roi de Midian, Cosbi, fille de Tsour, qui est aux yeux de tous, devant la tente d'assignation et devant les anciens. Puisque Balaam avait envoyé les filles de Midian, et les filles de Midian disaient aux Hébreux, vous voulez coucher avec moi, aucun problème, vous vous prosternez devant l'idole et puis c'est réglé. Et il le fait devant tout le monde, et tout le monde baisse la tête à honte de ce qui se passe. Et Pinchas se dresse, Pinchas, le petit-fils d'Aaron, le prêtre, prend un javelot et les embroche littéralement tous les deux. Et quand les gens voient ça, il le fait par jalousie, c'est-à-dire il est furax qu'on puisse humilier Dieu, mépriser Dieu, blasphémer en quelque sorte devant tout le monde. Et il a cet acte. Quand il fait ça, c'est tellement un acte violent que tout le monde prend conscience de ce qui se passe et la plaie arrête. Et la Kabbale dit, voilà, cet homme, c'est la réincarnation de cet homme. C'est-à-dire que Caïn, qui a tué son frère par jalousie, puisque vous savez, l'offrande de Abel était acceptée, celle de Caïn était refusée, donc... La jalousie a conduit Pinchas au meurtre.
Les mêmes motivations.
Ni les mêmes motivations, ni les mêmes conséquences. Vous voyez donc que ce n'est pas les sentiments qui font les hommes, mais c'est les hommes qui font les sentiments. C'est-à-dire que c'est l'homme qui utilise le sentiment pour le canaliser, pour en faire quelque chose. Et c'est ça la réponse peut-être à votre question sur œil pour œil, dent pour dent. L'interprétation littérale n'existe pas dans le Talmud. Le Talmud dit, il s'agit ici d'une compensation financière. Avec 2500 ans d'avance, la Bible... enfin 3500 si on considère actuellement, mais 2500 avec le concept d'indemnisation à la victime, l'indemnisation financière à la victime, la Torah dit, quelqu'un blessé devra, à l'œil, on devra évaluer combien ça lui coûte son œil pour lui, et on dédommagera.
C'est à prendre au sens littéral d'une certaine manière.
Et vous comprenez bien que, je ne sais pas moi, pour un footballeur, la main d'un footballeur, sauf s'il est gardien de but, vaut moins cher à indemniser que la main d'un pianiste. La main d'un pianiste,
bien sûr, bon, oui.
La main d'un footballeur, il arrivera toujours à se débrouiller.
Donc, s'il a perdu un œil, on lui paiera œil pour œil.
Œil pour œil.
Enfin, l'équivalent de ce que ça valait.
Exactement. Alors, comment on faisait à l'époque ? On allait au marché aux esclaves et on voyait combien valait un esclave, je ne sais pas moi, avec ses qualifications, avec un œil en moins, avec un œil en plus, enfin, qui avait les deux yeux ou qui avait un seul œil, et payer la différence. Donc, en fait, on évalue cinq choses. Vous voyez comment ça se passe ? Œil pour œil, dent pour dent, il ne faut pas se limiter à
ça.
Je
ne savais pas ça, non.
La souffrance, enfin, le dommage d'abord, bien sûr. La souffrance. La guérison, l'immobilisation et la honte. Parce que c'est vrai que se balader avec un bandeau, c'est une situation de honte et on va indemniser tout cela. Là, on a seulement maintenant convenu qu'il fallait aussi indemniser la honte, ce qui prouve que la Bible avait une fois de plus quelques millénaires d'avance.
Absolument, dans l'indemnisation aux victimes. Voilà. Merci à Haïm Korsia pour toutes ces précisions. On se retrouvera dans une prochaine rubrique, les mots de la Torah.
Voilà.